Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 18 décembre, les files d'attente s'allongent devant les laboratoires avant de fêter Noël en famille. Beaucoup souhaitent se rassurer en effectuant un test. Pour lui, les résultats sont revenus positifs. Depuis hier, Emmanuel Macron est isolé à la lanterne à Versailles où il continue à gérer les affaires courantes. Un président de la République qui dispose de 4 médecins personnels. La transparence sur l'état de santé a toujours été une question délicate. Nous en parlerons avec notre invité, Denis de Montpion. Après l'agression de 2 policiers le week-end dernier près de Valenciennes, 3 jeunes adultes passent en comparution immédiate dès cet après-midi. Les handballeuses françaises sont déshabituées des demi-finales de l'Euro. Ce soir à 18h, elles affrontent les Croates. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Un vendredi plutôt agréable.
Oui, c'est vrai que globalement il fait assez beau sur pratiquement tout le pays. Alors on a un peu d'instabilité en Languedoc et ça remonte jusqu'à la Drôme et à l'Ardèche. Il va pleuvoir, il va y avoir des orages une grande partie de l'après-midi. On a de la grisaille qui remonte jusqu'aux portes de Dijon, mais ça devrait se lever dans le courant de l'après-midi. À l'ouest, un petit peu de grisaille aussi qui traîne entre la Charente, le Poitou et le Bordelais. Ça devrait se lever. En revanche, de nouvelles pluies vont aborder la pointe bretonne dans le courant de l'après-midi, voire en soirée s'ils ont un peu de chance. Donc ailleurs, c'est du soleil avec des températures très douce, trop douce. 10 degrés à Nancy, 11 à Abbeville et Paris, 13 à Ambérieu et Montauban, 14 à Brest et 16 à Bastia aujourd'hui.
La question du jour, Covid-19, a-t-on déconfiné trop vite? Vous dites oui à 50%, non à 33%. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, avec cette question en corollaire qui nous inquiète, est-ce qu'un troisième confinement est inévitable? Est-ce que vous allez vous faire tester avant de rejoindre votre famille? Est-ce que vous avez choisi de ne pas bouger pendant les fêtes de fin d'année? Appelez-nous bien évidemment entre 13h et 14h30. Vous pourrez continuer de réagir à l'actualité, celle d'Emmanuel Macron, testé positif hier. On s'interrogeait, peut-on parler d'imprudence? Vous nous donnerez également votre avis, comme vous nous donnerez votre avis sur cette étude de l'Institut Pasteur. Aller dans les restaurants ou dans les bars augmente le risque d'attraper la Covid-19, mais cette étude a été faite alors que les bars et les restaurants étaient fermés. Et puis le passeport vert pour les personnes vaccinées, c'est la proposition de la députée UDI, Valérie Sic. Chaque personne vaccinée pourrait se rendre dans des lieux de culture ou dans des restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez? À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Pascal.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Se faire tester avant de rejoindre sa famille pour les fêtes, cela fait partie des recommandations très suivi par les Français. En témoignent les files d'attente devant les laboratoires d'analyse. Cela faisait quelques semaines qu'on n'avait pas vu autant de monde, hein, Mourad Djabari.
Effectivement, ce laboratoire était presque désert pendant le confinement où il y a encore quelques jours. Laura vient faire un test avant de prendre la direction des vacances ce soir et pour être plus sereine avant de se retrouver en famille autour de la table du réveil.
Je fais le test par précaution. Je pars en vacances et puis en même temps, voilà, j'ai peur de contaminer mes parents qui sont âgés pour me protéger et protéger les autres aussi. On va certainement prendre également nos précautions là-bas. On va essayer de ne pas trop être affectueux.
Et si votre test est négatif, vous allez quand même garder le masque le soir du réveillon?
Peut-être pas.
La cadence des prélèvements est la même qu'au premier confinement au printemps dernier où l'on voyait ces longues files d'attente. Émilie, infirmière, s'attendait à une augmentation, mais pas aussi nette.
Le week-end dernier, déjà, on a eu beaucoup de monde. Je crois que le dimanche, on a fait 700 personnes. Et je pense que là, ce week-end, ça va être pareil. Entre 700 et 800 personnes par jour. Plus de la moitié, c'est des gens pour les voyages et les vacances ou pour aller voir la famille. Il y a très peu de gens qu'à contact et malades, beaucoup moins en tout cas.
Depuis quelques jours, le nombre de tests a été multiplié par 2, voire par 3 dans ce laboratoire.
Le reportage de Mourad Djabari. On rappelle que même en cas de test négatif, il faut prendre ses précautions, appliquer les gestes barrières au maximum. C'est à table que le risque de contamination est le plus grand selon une étude menée pendant le couvre-feu puis le confinement. De nombreux malades ont déclaré avoir été en contact avec le virus au moment des repas. Est-ce le cas pour Emmanuel Macron qui n'a pas vraiment respecté les règles lors de déjeuners de travail à l'Élysée? Depuis hier, le président de la République qui a été testé positif, qui présente des symptômes, eh bien, il est en isolement à la résidence de la Lanterne à Versailles. Un malade pas tout à fait comme les autres, William Galibert.
Oui, alors pour le nez qui coule ou pour la fatigue, là même un président n'est pas vraiment mieux loti que vous et moi. Et lors de sa dernière apparition hier soir, on a vu un Emmanuel Macron un peu gris, pas bonne mine et qui tout sautait un peu. On doit se contenter de ça parce que l'Élysée ne livre pour l'instant aucun détail précis sur son état de santé. Mais c'est vrai, le chef de l'État est suivi 24 heures sur 24 par un médecin et tous les scénarios sont envisagés. Même celui du pire avec une évacuation en cas d'extrême urgence vers l'hôpital des armées de Clamart ou vers une clinique de Versailles qui est la plus proche de sa résidence de la Lanterne. On n'en est pas là. Puisque le président travaille toujours ce matin, il a continué à mener plusieurs réunions en visioconférence, entouré de l'équipe la plus réduite possible, nous dit l'Élysée, avec notamment son aide de camp, un militaire qui, malade ou pas, ne le quitte jamais d'une semelle. Et ce fonctionnement est amené à durer. Le dernier Conseil des ministres de l'année, prévu lundi, se fera lui aussi par caméra interposée. Le président voudra-t-il donner de ses nouvelles ce week-end et sous quelle forme? Là, la question n'est pas encore tranchée pour le moment.
Merci beaucoup William Galibert du service politique de RTL. Et on l'apprend à l'instant, suite au dîner qui s'est tenu à l'Élysée, deux associations victimes coronavirus français, association de commerçants Les Pondus, portent plainte contre X d'après leur avocat qui est aussi celui de Didier Raoult. Une plainte au pénal a été déposée auprès du procureur de la République de Paris ce matin, susceptible de viser l'ensemble des participants du dîner à l'exception de Jean Castex et d'Emmanuel Macron. Avec nous en studio, Denis de Montpion, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et co-auteur du livre « Le dernier tabou, révélation sur la santé des présidents » aux éditions Pygmalion. Peut-on parler d'opération transparence d'Emmanuel Macron positif au Covid ?
On peut dire qu'il y a été contraint du fait de la contagion de la maladie, puisque il est allé à Bruxelles, n'est-ce pas ? Il a vu tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Donc, compte tenu de l'infectiosité de cette maladie, il lui était difficile de faire l'impasse. D'autant que depuis le mois de mars, on a tous des recommandations pour justement alerter les proches, les cas contacts, etc., etc. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, sa communication, puisque évidemment, à part sa présence par visioconférence, communiqué de l'Élysée, etc. Il n'est que dans la communication. On ne connaît pas effectivement.
C'est un communiqué d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas un bulletin de santé.
Oui, non, il
n'y
a pas eu de bulletin de santé.
Parler.
D'ailleurs, il n'en a pas publié depuis qu'il est. Il s'y était pas engagé non plus. Il n'est pas en faute. Et rien n'y oblige, ni la Constitution, ni aucun texte de loi. Donc là-dessus, c'est vraiment le fait du prince. Hein. C'est selon son bon vouloir. Mais donc un communiqué parce que qui ne permet pas, en effet, de savoir d'abord quel traitement il subit. Alors c'est une manière aussi de dire aux Français, c'est une forme bénigne, comme il y en a tant, 7 jours d'isolement, et puis dans 7 jours, en espérant que, il sera retapé, il repartira d'un bon pied. Mais vous savez qu'avec cette maladie assez inédite, c'est au bout de 9 jours qu'il peut y avoir une aggravation, une hospitalisation, dans les cas les plus extrêmes, réanimation. Et là, ça poserait, si ça devait être le cas, ce que personne ne lui souhaite, c'est qu'évidemment, ça poserait des questions cruciales sur
la gestion du pouvoir.
Voilà, qui gère le pays à ce moment-là.
Alors évidemment, la situation n'est pas la même que si on avait un président plus âgé. Hein. On rappelle qu'Emmanuel Macron va fêter ses 43 ans lundi prochain. Forcément, il y a moins d'inquiétude, on peut le dire comme ça.
Alors, oui et non, parce que vous savez, je repensais à ce que Michel Debré, le père de la Constitution de 58, disait en 64, après que de Gaulle ait été opéré de la prostate, d'ailleurs de manière totalement dissimulée également. Il disait que la santé du président engage toute la nation. Et ça reste valable aujourd'hui. Évidemment, c'est pas la même chose quand on a une entorse, quand on a une rage de dents, ou une maladie plus grave et plus sérieuse, qui peut d'ailleurs entraîner une incapacité intellectuelle pour le chef de l'État. Bon, avec Emmanuel Macron, on n'en est pas là, a priori, mais il faut quand même toujours rester l'arme au pied et très vigilant sur l'évolution. Et c'est normal que tous les médias et tous les Français se préoccupent, en effet, de savoir s'il y a une amélioration, pas s'il est confiné, comment il est suivi. Alors, votre journaliste disait tout à l'heure qu'il y a, en effet, Percy Clamart qui est prête à l'accueillir à l'hôpital militaire, clinique et tout ça. Mais ça, c'est une disposition toujours valable, c'est-à-dire où qu'aille le chef de l'État, quand il fait un déplacement à Valenciennes, à Marseille, où que ce soit, il y a toujours une unité hospitalière qui est prête à le recevoir au cas où il serait victime d'une agression, d'un malaise, etc., etc. De toute façon, c'est dans le dispositif, dans le fonctionnement de la République.
Tout est toujours prévu. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des changements sous la Ve République en fonction des événements, en fonction des maladies, que ce soit celle de Georges Pompidou, de François Mitterrand ? Vous disiez que Emmanuel Macron est transparent, mais bien obligé de l'être. Est-ce que ça fait partie d'une évolution de mentalité ?
Alors écoutez, assez curieusement, le général de Gaulle, il avait deux médecins, mais Madame de Gaulle considérait que tout ça, c'était la vie privée, ça ne devait pas être étalé sur la place publique. Georges Pompidou a continué dans cette voie et puis on sait ce qu'il était devenu. Il est mort à mi-chemin de son septennat. Et à partir de là, quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République, il a complètement réformé le système et c'est lui qui l'a modernisé. C'est-à-dire que à partir de cet instant, il y avait des médecins militaires, il y avait toute une équipe à l'Élysée qui surveillait de près la santé du président. Et Valéry Giscard d'Estaing avait plus des problèmes métaphysiques qu'autre chose, mais voilà, les médecins étaient là. Et puis, on sait que sous François Mitterrand, ensuite, là, c'était le règne des cachotteries, puisque il s'est appuyé surtout sur son médecin personnel, Claude Vibler, qui l'a d'ailleurs contraint à rédiger régulièrement des bulletins de santé qui étaient tous erronés, mensongers et trompeurs pour le public. Jacques Chirac n'a guère fait mieux, puisque après la mort de François Mitterrand en 96. Il y avait tout un collège d'experts, de constitutionnalistes, de médecins, de juristes qui avaient essayé de réfléchir à la manière de combler le vide juridique en cas d'absence et d'empêchement important du président. Je dis empêchement, je ne parle pas de la mort. Parce que quand il y a, si le président meurt, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Mais s'il est incapable d'exercer la fonction, de prendre des décisions, là, c'est l'inconnu.
Merci infiniment Denis de Montpion. Je rappelle que vous êtes journaliste et surtout co-auteur du livre Le Dernier Tabou, révélation sur la santé des présidents aux éditions Pygmalion. Merci à vous.
Merci.
On fait une pause et dans un instant, prendre le risque de revenir passer les fêtes en famille avec une période de quarantaine au retour. En Belgique, beaucoup de Français hésitent.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Passer Noël en famille ou pas, c'est le dilemme des Français qui habitent en Belgique et qui hésitent fortement à revenir au pays pour les fêtes, sous peine de quarantaine au retour. Ce soir, une réunion doit avoir lieu entre le gouvernement fédéral et les régions. Ultime feuille de route avant le réveillon. Certains l'attendent avant de prendre la route ou pas, Caroline N.
C'est le sujet de conversation principale chez tous les Français en Belgique.
Je me pose la question tous les jours en fait.
À 6 jours du réveillon, Julie ne sait toujours pas si elle rentre en Alsace chez ses parents.
L'année a été extrêmement longue, ça a été difficile. Les familles nous manquent. Et en même temps, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, on rentre pas, on rentre, on rentre pas. Dans quelles conditions on aura le droit de revenir en Belgique aussi ?
Un retour de l'étranger implique obligatoirement de remplir un formulaire qui, lui, entraîne une quarantaine. La police vérifie à la frontière que ce formulaire soit bien complété. Bastien espère passer entre les mailles du filet.
Je suis arrangé pour ma famille, qu'il me ramène en Belgique en voiture, en espérant que je me fasse pas contrôler.
Mathilde, elle, a préféré prendre les devants. Elle a finalement raccourci son voyage à Saint-Étienne.
J'ai culpabilisé pendant des jours et des jours et des jours, en me disant, c'est pas possible, je vais devoir ne pas rentrer, et tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Et finalement, j'ai trouvé une solution, de partir plus tôt et de revenir plus tôt. Comme ça, je peux faire une quarantaine d'au moins 7 jours avant de reprendre le boulot.
Les contrôles policiers aux frontières seront renforcés. Il n'y aura plus aucune exception à la quarantaine, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui.
Caroline N. à Bruxelles pour RTL. Officiellement, les vacances scolaires, c'est ce soir. D'habitude, les routes sont chargées, mais avec les restrictions, le couvre-feu bison futé ne voit que quelques bouchons en Île-de-France. La région est classée orange. Normalement également à cette époque, le marché de Rungis est pris d'assaut et l'ambiance est forcément différente en pleine crise sanitaire. Les grossistes ne voient plus certains clients comme les restaurateurs bien sûr qui sont toujours fermés. À quelques jours des fêtes, petite effervescence quand même qui fait du bien et qui donne envie, n'est-ce pas Gatlandé ?
Exactement, les producteurs s'affairent dès 2h du matin dans l'immense pavillon de la Marée. À perte de vue, des poissons, des gambas de la taille d'un avant-bras, des coquilles Saint-Jacques. Véronique Gillardot est la patronne de la maison du même nom, bien connue pour ses huîtres.
Le plateau de fruits de mer reste quand même le produit par excellence sur la table, donc c'est une grande période pour nous. Il n'y a pas encore beaucoup de commandes, mais on saura s'adapter, bien sûr, jusqu'à la dernière minute.
L'ostréicultrice positive veut y croire, car force est de constater qu'il y a moins d'acheteurs que les autres années. On quitte cette immense criée pour aller slalomer un peu plus loin entre les énormes meules de fromage dans les effluves du hangar produits laitiers où là les producteurs souffrent moins de la crise, explique Bruno Borel, le principal grossiste du pavillon.
Pour la majorité des entreprises de notre secteur, ça marche bien parce que notre clientèle, c'est les crémiers fromagers et eux, par contre, travaillent très bien.
Justement, vous qui êtes un fin connaisseur, vous aurez quoi comme fromage sur votre table de Noël ?
Étant d'origine savoyarde, j'aurais déjà forcément du Beaufort, j'aurais du reblochon et il y aura du Roquefort. Et puis très probablement donc une pâte molle, ça sera soit un coulommier, soit une part de brie de Meaux.
Voilà Agnès, alors j'espère que vous avez bien pris des notes de ces quelques petites idées pour garnir votre plateau de fromage à Noël.
Enfin, elles ne vont pas rester longtemps sur le papier hein, les notes. Agathe, merci beaucoup ce matin au marché de Rungis pour RTL, ce très beau reportage. Une pause et dans un instant, opération déminage avant le Beauvau de la sécurité fin janvier. Plusieurs syndicats sont reçus par le ministre de l'Intérieur pour tenter de jeter les bases d'une discussion constructive.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
En janvier, le Beauvau de la sécurité doit s'atteler à jeter de nouvelles bases pour rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Mais d'ores et déjà, certains syndicats, toujours très remontés contre Emmanuel Macron, menacent de ne pas participer à cette concertation. Alors depuis ce matin, pour tenter de déminer le terrain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit les organisations. Et le dialogue semble plutôt constructif, Sébastien Rouxel.
Oui Agnès, ce sont des syndicats globalement satisfaits qui sont ressortis du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur a notamment confirmé la mise en place d'un observatoire de la réponse pénale. L'objectif, savoir concrètement quelles peines sont prononcées contre ceux qui agressent les forces de l'ordre. C'était notamment une demande du syndicat Alliance et de son secrétaire général Fabien Van Hemelrijk.
La protection du policier n'est pas négligée. Il y a toujours un engagement de l'État sur celle-ci, et notamment le fameux article 24, qui est toujours en remaniement, mais qui n'est pas oublié. On n'est pas du genre à s'enflammer, on n'est pas du genre à croire au Père Noël. Donc on nous a fait des mesures concrètes. Maintenant, il y a la mise en application de ces mesures, avec un déroulement bien déterminé. Et une fois qu'on aura ça, on verra si on participera à ce grand débat de la sécurité, parce qu'il y a des thèmes intéressants dedans, mais il y en a d'autres qui nous paraissent complètement obsolètes.
Dans le viseur du syndicaliste, deux thèmes avancés par l'exécutif. Le renforcement du lien entre la police et la population d'une part, la réforme de l'IGPN, la police des polices d'autre part. Deux sujets qui doivent être abordés dès janvier lors du Beauvau de la sécurité.
Sébastien Rouxel au ministère de l'Intérieur pour RTL. Les forces de l'ordre régulièrement la cible de violence. C'est aussi l'un des points de malaise. Dernier exemple en date, dimanche dernier, près de Valenciennes à Marly, deux policiers agressés lors d'une intervention. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une douzaine de personnes ont été interpellées. La moitié devra répondre de ses actes devant la justice. Et d'ailleurs, dès cet après-midi, trois jeunes majeurs sont jugés en comparution immédiate. Écoutez le procureur de la République de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini.
Cette agression qui est d'une grande violence est inacceptable. Il était important effectivement que l'enquête puisse progresser très vite, qu'on puisse très vite procéder à des interpellations et à faire comparaître les gens qui ont été auteurs de ces violences devant le juge.
Qu'est-ce qui motivait ces jeunes à s'en prendre à des policiers ?
Simplement le refus de certains d'entre eux que les policiers puissent saisir une moto qui encore une fois était fonctionnait illégalement, sans être homologuée, alors qu'elle était sur la voie publique. Là, les deux jeunes, 15 ans, 16 ans, qui participaient à ces faits, sûrement entraînés par des plus grands, hein, bien évidemment, puisque c'est ce qu'ils disent, n'avaient jamais été condamnés, ni même fait d'ailleurs l'objet d'une mesure de garde à vue. Donc effectivement, la facilité, le manque de sens civique de certains sont un peu étonnants, voire un peu inquiétants. Mais en tout cas, je pense que le message qui est important à faire passer, c'est que les lois de la République s'appliqueront partout et pour tous.
Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Les handballeuses françaises vont tenter ce soir de décrocher leur ticket pour la finale de l'Euro. En demi, elles affrontent les Croates à partir de 18h. C'est leur quatrième demi-finale en 5 ans. Le match se déroule au Danemark. On retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez écouté attentivement le journal, on l'espère, Pascal. Qu'est-ce qui vous a frappé?
Ce qui nous inquiète, c'est le nombre de nouveaux cas. Et j'étais avec Laurent Tessier au Standard. Beaucoup de gens appellent sur le thème, est-ce qu'on a déconfiné trop vite? Et c'est un paradoxe, parce qu'effectivement, on avait envie de retrouver de la liberté, ce qui est bien normal. Est-ce que le troisième confinement est inévitable? Est-ce que vous avez peur de bouger? On l'a vu d'ailleurs, entre la Belgique et la France. Est-ce que vous allez vous faire tester? La réponse est oui. D'ailleurs, les Français, à chaque fois, on se rend compte qu'ils sont très résilients d'abord et très disciplinés ensuite durant cette séquence. Donc ça va être notre thème majeur pour tout vous dire. On parlera également d'Emmanuel Macron, bien sûr, vous pourrez toujours réagir. On parlera du passeport vert, de la proposition de la députée de l'UDI Valérie Six. Voici notre programme entre 13h et 14h30.
Vous me parlerez peut-être du rock, qui incarne le rock à lui tout seul. 50 ans après son premier album, Paul McCartney sort son dernier opus aujourd'hui à 78 ans. S'il vous plaît, il a profité du confinement pour réaliser ce disque dans lequel il prouve encore son incroyable soif de musique et sa capacité à se réinventer. Écoutez. Paul McCartney, la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Oui. Les températures sont beaucoup trop douces pour la saison, mais doit-on véritablement s'en plaindre?
Alors, d'un point de vue écologique, oui, certainement. Après, c'est toujours plus agréable de mettre une seule épaisseur plutôt que trois. Donc, pour le coup, 8 degrés à Strasbourg cet après-midi, une des températures les plus basses. 10 à Lille et Orléans, 11 à Paris et Grenoble, 12 à Cherbourg, 14 degrés attendus à Toulouse, 17 à Perpignan, 18 degrés à Ajaccio. Et avec du soleil la plupart du temps, on a de l'instabilité en Languedoc qui va remonter vers la vallée du Rhône sous forme d'averse orageuse. Ça va être le cas tout l'après-midi. Et ce soir, pas avant, une nouvelle dégradation va aborder la pointe bretonne. Donc ça, sinon, pour le reste, c'est vraiment un temps très ensoleillé tout l'après-midi.
Et ce week-end, retour de la pluie.
Bah oui, justement, cette pluie qui arrive par la Bretagne ce soir va se répandre forcément. Elle ne va pas en rester là. Demain, elle va traverser le pays assez lentement. On va la retrouver sur toute la façade ouest demain matin, puis entre les Pyrénées et les Ardennes l'après-midi, en passant par le Limousin, la région centre ou encore le bassin parisien. À l'est, pendant ce temps-là, le temps restera ensoleillé, sauf dans le sud-est, près de la Méditerranée. Ce sera vraiment très instable. On va avoir des pluies assez soutenues. Ce sera d'ailleurs à surveiller. Puis à l'arrière, des pluies sur la pointe bretonne ou encore sur la Normandie. Demain, il y aura des éclaircies pas trop vilaines entrecoupées d'averses. Tout cela avec des températures qui vont rester très douces. 9 à 18 degrés en journée, 12 à Paris, à Rouen ou encore à Limoges. Et puis dimanche, on va retrouver un temps assez instable sur les régions de l'Est cette fois, avec de la neige en moyenne montagne, 1300 mètres pour les Alpes du Nord, 1600 mètres pour les Alpes du Sud. Et à l'arrière, déjà un retour d'éclaircies. Tout cela avec de la douceur, toujours une douceur qu'on devrait garder pratiquement toute la semaine prochaine. Les températures pourraient commencer à baisser à partir de vendredi et surtout le week-end prochain.
Merci beaucoup Valérie. Vous écoutez RTL. Dans une minute précisément, il sera 13h.
RTL Midi.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
A-t-on déconfiné trop vite? Ça sera la question qui va nous animer.